Vous écoutez Radio Capi ?
Merci.
Je suis Karine Galimbert, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi. Samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Bien, beaucoup de gens se lancent dans les affaires, mais plus arrivent à accroître rapidement les bénéfices, ce qui ne leur permet pas de prospérer comme ils souhaitent. Et après un moment, ils sont parfois gagnés par le découragement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Joël Sikou, assistant à la faculté d'économie et développement à l'Université catholique du Congo, est avec moi dans ce studio. La première question, qu'est-ce qu'on entend par bénéfice?
Bon, le bénéfice, d'une façon simple, c'est la marge entre les coûts et le prix des ventes. Donc, la différence entre les prix que vous avez reçu du client, l'argent, et les coûts que ça vous a coûté d'offrir un service ou d'offrir un produit. Cette marge-là, c'est ce qu'on appelle bénéfice, d'une façon simple.
Par exemple.
Donc, vous avez, disons, acheté une calculette, par exemple, à 10 dollars,
oui.
Et vous l'avez vendue à 15 dollars auprès d'un étudiant, par exemple.
Oui.
Et le bénéfice, c'est 15 dollars là, moins les 10 dollars. Cependant, là, il faut préciser quelque chose. Quand on parle du coût, on ne voit pas que le prix d'achat. Il y a aussi les transports que vous avez payés pour amener ces calculettes, par exemple, des
Guanzo.
Voilà.
Des Guanzo, par exemple.
Et il y a tous les frais que vous avez payés. Donc, on peut.
Les frais des transports.
Tout ça. Donc, ouais. On peut aller jusqu'à, disons, 12, 13 dollars des coûts. Que vous avez, disons, supporté.
Pour la douane.
Tout ça. Ça peut jusqu'à 13, disons. Et donc, le bénéfice, le vrai bénéfice que vous pouvez utiliser, qui est à vous, ce sera donc 15 dollars moins 13 dollars. C'est ça votre bénéfice.
C'est ça votre bénéfice.
Okay.
Mais est-ce qu'il y a un pourcentage précis pour le bénéfice? Il y a une marge qu'il ne faut pas dépasser?
Bon, il paraît que pour l'agent congolais, c'est 20%. Je n'ai jamais
acheté
ça, oui. Mmh. Mais voilà, c'est 20% maximum. C'est à vous d'éroder. Aller même juste moins pour avoir plus de clients, ou aller au-delà, avoir moins de clients, mais réaliser rapidement ce que vous voulez faire. On en discutera dans, au cours de cette émission.
Ouais.
Parce qu'il y a plusieurs façons de faire les bénéfices, disons, en multipliant le nombre de clients ou en élevant le prix. Donc, c'est une stratégie qu'on peut voir. Donc, on a des manettes, donc la marge de manœuvre pour manipuler le prix, pouvoir vendre un produit à un prix élevé et faire donc un bénéfice supérieur, ou bien maximiser plutôt le nombre de clients, donc accroître le nombre de clients, même avec une marge faible, en multipliant par un nombre de clients élevé, vous pourrez avoir un bon bénéfice aussi.
Voilà, donc ce sont les deux stratégies, élever le prix, augmenter le prix, ou maximiser le nombre de clients.
Oui.
Alors, par rapport à la première stratégie, élever le nombre de prix, vous pouvez bien vendre plus cher, les gens vont s'en rendre compte, et vous allez perdre des clients.
Bien sûr, donc en économie, nous disons souvent qu'il y a deux cas extrême de marché. Il y a le marché de concurrence parfaite et il y a le marché de monopole. Le marché de concurrence, ce sont des cas, disons, idéal. Ça n'existe pas vraiment dans la réalité, marché purement à concurrence parfaite ou bien marché purement de monopole. Le monopoleur, oui, il a, le pouvoir, il est price maker, donc il peut faire les prix, il peut décider du prix, d'autant plus qu'il est le seul à produire, à produire ces biens-là. Donc il peut décider de vendre comme il veut, mais il doit aussi tenir compte du pouvoir d'achat dans le marché, dans la collectivité où il exerce. Donc, au-delà de son pouvoir, qu'on pourrait dire suprême, il est limité par la demande qui est dans la collectivité. Mais le cas de figure, surtout dans l'économie actuelle, c'est que le plus répandu, c'est la concurrence parfaite. Ils ont le cas qui est plus proche de la concurrence parfaite, où tout le monde est price taker. Donc tout le monde considère le prix comme étant donné. Nous prenons le prix tel qu'il est sur le marché. Alors tout producteur de services ou de biens fait un effort de minimiser ses coûts en tenant compte du prix qui est sur le marché. Donc on sait par exemple que, je vais prendre un cas, la bière par exemple. Donc la bière se vend à 1000 francs à Kinshasa. C'est tout le monde qui prend ses prix comme tel. Nous sommes tous des price takers, donc nous ne prenons pas comme ça. Quitte à nous maintenant de faire d'autres manœuvres pour que nous ayons une marge, disons, supérieure. Admettons que vous réduisiez les coûts, disons, de transport ou que vous multipliez le nombre des clients. Vous ne pouvez jouer que sur les coûts. Vous ne pouvez pas jouer sur les prix. Donc, c'est à vous de réduire vos coûts. coût de façon à ce que votre marge puisse être grande. Donc, c'est dire que ces deux façons-là de faire le bénéfice.
Ouais, certains se disent, bon, si je diminue le prix, je risque de ne pas récupérer le capital. Tout ça, on entend souvent les commerçants se plaindre dans ce sens-là.
Bon, il faut reconnaître que nous sommes dans une économie de pénurie où le pouvoir d'achat est faible et puis les prix ne sont pas rémunérateurs. Donc, c'est vrai qu'en réduisant les prix, vous perdez en termes de marge et vous n'avez aucune garantie que cela pourra être compensé par le nombre de clients. Mais nous savons, je pense que les auditeurs pourront intervenir, nous savons qu'il y a des gens qui ont vraiment obtenu de bons résultats en réduisant de cette façon. Je vais prendre le cas d'une bière, je ne cite pas le nom, qui se vend à Kinshasa habituellement aux environs de 1000 francs. Il y a des endroits connus aujourd'hui à Kinshasa où cette bière-là est vendue à 600 francs.
Bah, et peut-être à titre promotionnel.
Ça peut être promotionnel, mais quand ça prend, disons, 3-4 mois, c'est un endroit connu. Donc, les gens vont là-bas et achètent de la bière à ce niveau-là. Donc, voilà, quelqu'un qui a compris qu'il peut faire beaucoup plus en réduisant les prix et en multipliant le nombre, en accroissant le nombre.
Alors, quand on multiplie le nombre de clients, on gagne aussi.
On gagne, oui. Prenez tout simplement l'exemple. Il y a plusieurs façons de faire 20.
Oui.
Vous pouvez faire 20 en faisant 2 fois 10, 4 fois 5, ou bien 10 fois 2. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Donc, si vous pouvez mettre le prix à 2, ou bien la marge, nous ne parlons même pas du prix, parce que la marge, c'est les bénéfices qui vous intéressent. Vous pouvez avoir une marge de 2 que vous pouvez obtenir. Donc, vous pouvez donc obtenir 20 en multipliant ces 2-là par 10. Donc, vous avez un bénéfice qui est 2 par bouteille. Et vous multipliez ça par 10, vous avez 20 dollars. Quelqu'un d'autre peut se dire, non, moi, j'avais une marge de 4. En multipliant ces 4-là fois 5, il obtient 20 dollars. Donc, il y a deux façons de faire ça. Et c'est à vous de voir quoi faire. Encore que celui qui prend le risque de mettre à 4 court le risque donc de perdre les clients qui sauront qu'il y a quelqu'un qui a mis la marge à 2.
Voilà. C'est ça. Vous avez des questions, vous êtes commerçant, vous voulez participer, composez le 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Mais quand, par exemple, vous allez sur le marché, il y a également ce qu'on appelle le marchandage.
Oui.
Donc, vous n'achetez pas. Les commerçants vous disent, voilà, je vends cet article à autant. Vous dites, non, prends, je te propose autant. Et parfois, il y a des négociations et on arrive à trouver un terrain d'entente.
Oui, oui. Nous sommes dans une société qui est favorable à ce genre de situation.
Oui. Moi, je pense mais ailleurs, ça ne se fait pas.
Ça se fait, mais ce sont des formes de promotion, comme vous avez dit, c'est souvent très encadré par l'État. Donc, vous n'êtes pas permis de faire n'importe quelle réduction à n'importe quel moment. Donc, il y a des périodes de soldes, il y a des périodes de ceci. C'est l'État qui joue, disons, qui encadre tout cela.
Et là, quand il y a solde, qu'est-ce que le commerçant va gagner?
Il gagne en fait qu'il écoule les
rapidement.
Voilà, les stocks qui étaient peut-être qui s'étaient entassés dans ses magasins, donc il dégage son entrepôt. Il gagne dans sur plusieurs points. En fait, on peut avoir vendu un bien, disons le coût était à 10, on a vendu à 12 pendant un certain temps, mais on a écoulé juste une petite quantité. Le solde, c'est le moment où vous pouvez vendre même à 10, donc vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien, mais ça vous permet d'écouler ces produits, parce que le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'innovation. Donc garder des anciens stocks, ça vous préjudicie, parce que dès qu'il y aura d'autres stocks qui vont arriver, ou d'autres produits beaucoup plus élaborés, vous allez perdre inutilement. Et donc, c'est une façon que l'État permet qu'on prend les commerçants pour qu'ils puissent libérer leurs stocks. Mais ici, c'est pas encadré, donc vous avez le droit de faire des soldes comme vous voulez. Il faut en tirer profit. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'acheteur. Toute personne qui fait sortir de l'argent de sa poche pour payer quelque chose, après, il a un certain regret. C'est psychologique, on ne sait pas comment.
Pourquoi on regrette?
Il a l'impression, est-ce que vraiment ça valait la peine? Est-ce que je n'aurais pas
besoin?
Voilà. Alors, lui donner l'occasion de marchander, compense un peu cette impression-là. Donc, il peut avoir acheté cher, mais le fait qu'il ait eu à marchander et qu'il ait peut-être obtenu gain de cause, ça peut réduire cela. Et vous pouvez arriver à les fidéliser comme cela en se disant, lui au moins il me fait des réductions, mon client me fait des réductions.
Voilà. Donc, il faut savoir fidéliser, c'est d'abord ses clients.
Oui, oui.
Donc, c'est une façon, c'est ça qui va vous aider à croître vos bénéfices.
Aussi, oui.
Voilà. Mais généralement, ici, lorsqu'il y a solde, c'est généralement lorsque les produits arrivent presque à terme, à la date d'expiration, et les commerçants se disent, ouais, voilà, on risque de tout perdre, alors on va solder rapidement, évacuer.
L'encadrement du solde, c'est aussi à cause de là que l'État doit intervenir. Vous parlez de date d'expiration. Pour les abus, je crois qu'il n'y a pas de date d'expiration.
Oui,
on peut solder même après 5 ans. Mais pour les produits alimentaires, je crois que nous avons l'OCC qui est là, il y a souvent des consommateurs qui sont organisés. Donc, quand il y a des histoires pareilles, on doit avoir l'œil sur ça. Pourquoi est-ce qu'il est-ce que c'est vraiment une proposition loyal et qui peut profiter aux consommateurs. Donc, on doit vérifier.
Mmh. Voilà. Mais pour accroître les bénéfices, certains recourent à la publicité. C'est aussi un moyen efficace.
Là où l'économie appliquée, donc le marketing et l'économie pure se retrouvent, c'est au niveau du marché comme tel. Les fondamentales, disons, et en marketing et en économie, c'est satisfaire un besoin. Mmh. Donc, quand on satisfait un besoin, on n'a pas besoin nécessairement de faire de la publicité. Quand le besoin existe et que vous offrez les produits qui satisfait ces besoins-là, ce n'est pas nécessaire. Mmh. Il y a besoin d'eau quelque part.
Vous amenez de l'eau.
Voilà. C'est fini. Et quand on apprendra que vous amenez de l'eau de bonne qualité, peut-être bien un bon prix, parce qu'il faut tenir compte aussi de tous ces facteurs. Donc, vous faites déjà votre propre publicité, un bon service, un bon travail, ça fait votre publicité. Mmh. Le commencement, c'est là. Seulement dans la vie d'un projet, comme la vie d'un homme, il y a, c'est comme un cycle, il y a des moments de croissance, de flottement et des moments de déclin. Mmh. Donc, la publicité intervient parfois, pas tout le temps, parfois pour soutenir des moments de difficulté. Donc, le chiffre d'affaires est en train de baisser, ça devient critique, donc vous devez soutenir le chiffre d'affaires, alors vous lancez une campagne publicitaire juste pour soutenir le chiffre d'affaires et vous pouvez vous retirer. Parce que l'essentiel, je le répète, c'est d'offrir un produit, un service qui satisfait, qui rencontre un besoin réel de la communauté et les gens sont prêts à payer de l'argent pour obtenir ce service ou ces biens.
Voilà, un auditeur nous appelle depuis Kalima, dans la province de Maniema. Soupi Anyembo, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama, bonjour à tous les auditeurs de cette radio.
Quelle est votre question?
Oui, je dis par une vous êtes commerçant, vous voulez ouvrir donc une pharmacie et vous avez l'argent. Même si dans votre niveau d'étude est tellement faible ou est inférieur, vous ne connaissez peut-être jamais comment est-ce que vous allez calculer les prix d'achat ou des bénéfices ou quoi. Est-ce que monsieur l'invité peut intéresser à ce groupe de personnes?
Merci Soupi. Ok, merci M. Soupi de Kalima. Vous voulez ouvrir une activité dans le domaine pharmaceutique?
Dans la pharmacie, d'abord il faut être pharmacien.
Selon la loi congolaise, ou bien être associé à un pharmacien. En fait, je vais en arriver là.
Oui.
Il y a les produits, donc médicaments que vous voulez offrir. Je ne sais pas si j'ai le temps de noter. Donc, il y a les produits, les clients et l'organisation ou les management. Donc, il y a ces trois compartiments. On va discuter en détail.
Oui.
Les produits, les clients et l'organisation ou les management. Les produits, c'est les médicaments. Est-ce que les gens ont besoin de médicaments là où vous êtes à Kalima, je crois? Admettons, oui. Est-ce qu'il y a des clients? Les clients, ça signifie des gens capables de payer, donc de faire sortir leur argent et de payer les médicaments. Admettons, oui. La question maintenant, ce qu'il pose, c'est au niveau de la troisième, disons, de la troisième partie du troisième compartiment, le management ou l'organisation. Il n'a pas de capacité, il n'a pas étudié, par exemple, je prends ça, il ne connaît rien au business et tout le reste. L'autre fois, quand vous m'avez reçu, j'ai parlé de ça encore. Ce qu'on appelle les partenariats ou les network, donc les réseaux. S'il pense, il veut rendre service à sa communauté, sa collectivité, il pense que lui aussi peut en tirer un profit, il faut solliciter de partenaires. Il ne faut pas être un pharmacien, comme vous avez dit, parce que la loi congolaise exige que vous soyez pharmacien ou associé à un pharmacien.
Oui.
Donc, il s'associe à un pharmacien. S'il s'agit de problèmes de business, donc tout ce qui est business plan, de prévisions financières et tout le reste, il y a des étudiants, il y a des membres de sa famille. L'Europe se développe avec des sociétés familiales, donc vous réunissez les compétences et lui, il a l'intuition, il a le feeling que ça va marcher, il a l'argent aussi, il apporte ça. Dans les partenariats dont je parle, dans le networking dont je parle, chacun apporte quelque chose de façon qu'il crée une synergie qui profite à tout le monde. Donc il crée un emploi pour un membre de sa famille. Il crée une opportunité d'intervention pour un pharmacien qui est qui n'a jamais eu l'occasion d'intervenir dans son milieu d'origine, Kalima.
Oui.
Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut organiser une activité. Qu'il n'ait pas peur de solliciter des compétences extérieures que lui n'a pas.
Oui, il y a certaines personnes qui ont peur, ils se disent que plus tard, ils vont me créer des problèmes, et puis ce sera des problèmes sur problèmes, et ça va détruire.
On parle actuellement au Congo de l'amélioration du climat des affaires. Ce n'est pas nécessairement pour les étrangers.
Oui.
Ça peut être pour nous aussi, pour nous aussi Congolais. ce n'est pas mal, ce n'est pas un tabou dans une famille d'avoir une société par action. Donc, où il y a l'oncle, le neveu, la nièce, la tante, oui. Et on sait que l'actionnaire principal, c'est les jeunes frères, ou c'est les grands frères, celui qui a, disons, 60% des parts.
Oui.
Donc, le jour où on partage les bénéfices, lui, il prend 60%. Le jour où il y a des élections, par exemple, on veut voter un directeur, on veut nommer un directeur, lui, il a 60% des voix. Ce n'est pas un problème.
Donc, aujourd'hui, c'est d'abord déterminé au départ.
Oui. Donc, vous mettez tout ça sur papier.
Oui.
La loi est là, vous avez des notaires, vous faites valider cela au niveau de la justice, tout le monde le sait. Le jour où il y a des problèmes, vous montrez les papiers.
Mmh.
Nous sommes en train d'évoluer, évoluons. Rien que les papiers. On n'arrive même pas encore au niveau des ordinateurs, utilisons même les papiers.
Oui.
Un papier avec un stylo, dites non, moi j'ai mis 10 000 dollars, l'autre a mis 2 000 dollars, moi c'est 10 000, l'autre c'est 2 000. Chaque, si une part c'est 1 000 dollars, nous avons 12 parts, moi j'ai 10 parts, lui il a 2 parts.
Mmh.
Mettez ça sur papier. Pourquoi avoir peur de cela? Vous engagez un pharmacien comme un consultant. Mettez tout ça sur quoi? Même trois paragraphes, c'est tout.
Mm-hmm.
Son salaire, la durée de son service, quel est son rôle dans l'activité, c'est tout.
Oui.
Donc, osez utiliser les papiers, les moyens qu'on nous a donnés. Plus tard,
ça passera. Mais, et dans le papier, il faut déterminer aussi les bénéfices. Le bénéfice est la part des
non, ce sont les calculs qu'on fait quand on réalise le business plan. Et puis, ça ne se concrétise toujours pas comme tel dans la réalité.
Oui.
Donc, quand là, c'est une autre affaire. Donc, vous présentez tous les projets tels que vous le concevez. Là, c'est ce que j'ai dit, qu'il peut recourir à une compétence familiale. Un jeune homme qui a fait l'économie, le management, ainsi de suite, qui arrive, donc, de l'idée de créer la pharmacie, amène ça jusqu'aux prévisions financières. Il dit, la période des hautes... disons, là où il y a le plus de malaria, par exemple, c'est avril. Là où il y a le plus de tout, c'est juin-juillet.
Mmh.
Il sait qu'en avril, il faudra beaucoup plus acheter des produits contre les palus.
Mmh.
Et en août, septembre, il faudra acheter des médicaments contre la toux. Donc, et en connaissant le prix de ça, un économiste, quelqu'un qui a fait le management, peut prévoir les flux financiers sur une année.
Mm-hmm.
Ça, c'est dans l'entraînement, pas encore au niveau de l'accord de la création de la pharmacie comme telle.
Oui. Ouais. Voilà. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-893-94. Des musiques.
On y va, c'est parti.
Des jingles.
Ah, ça a déjà commencé.
Du rire.
On est à l'hôpital central, ambulance internationale.
C'est Roundup, tous les samedis et dimanches à 13h20, heure de Kinshasa.
Voilà, nous parlons de qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître les bénéfices dans les affaires. Joël Sekou, assistant à la faculté d'économie et développement à l'Université catholique du Congo, est notre invité aujourd'hui. Voilà, ben, nous savons que vous avez dit tout à l'heure, pour obtenir les bénéfices, il y a des stratégies. Il faut élever le prix d'un produit ou maximiser les clients. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer beaucoup plus, avoir beaucoup plus de la clientèle? Parce qu'il y a certains hommes d'affaires que les clients viennent d'eux-mêmes, donc il a déjà de la renommée dans la cité, les gens savent non pour quel produit il faut aller jeter.
Oui, la première chose, comme j'ai dit, l'essentiel c'est de rencontrer d'abord les ententes du client. Donc les produits doivent correspondre à son besoin. Ça, vous n'avez même pas besoin de faire de marketing ou étudier. Donc si votre produit rencontre un besoin réel de la collectivité, c'est déjà ça la base. Seulement au niveau de...
On peut arriver aussi à faire des bénéfices au-delà même des prévisions, de ce qu'on espérait.
Bien sûr, bien sûr.
Il
y a un professeur qui avait l'habitude de le dire, donc c'est tiré de la Bible, quoi que c'est passé en Égypte.
Ouais.
Donc, quand vous faites des bénéfices supérieurs à ce que vous avez prévu, il faut savoir comment utiliser les surplus en vous disant qu'un jour ou l'autre, il y aura des moments où vous ferez... Tout évolue comme ça, l'économie, en fait.
Mmh.
Tout évolue en cycle. Ne croyez pas qu'il y aura toujours des surplus, ainsi de suite,
oui,
de manière indéfinie. Alors, vous pouvez voir comment utiliser les bénéfices des surplus pour diversifier toutes vos activités ou accroître votre activité.
Mmh.
Ça arrive dans le cadre des prévisions. Vous arrivez à un cas ou à une situation ou à un moment où vous réalisez quelque chose de supérieur à ce que vous avez prévu. Ça peut aussi arriver que vous réalisez moins que ce que vous avez prévu.
Mmh.
Voilà. Donc, quand vous réalisez plus, ça peut être dû au fait que la clientèle s'est assise. Comment faire pour fidéliser ses clients? Parce que vous êtes peut-être les seuls à fournir ces biens dans la collectivité ou dans la cité. Vous savez qu'un jour ou l'autre, les autres vont suivre quand ils vont remarquer qu'il y a trop de gens qui achètent chez vous.
Mmh.
Donc, comment faire pour que les jours ou l'autre vont ouvrir, que les gens continuent quand même à venir chez vous? Donc, les autres quand les autres vont ouvrir leur activité, les clients qui étaient chez vous continuent quand même à venir chez vous. Donc, là, maintenant, ce sont des facteurs psychologiques qu'il faut utiliser. De plus en plus, on parle de la personnalisation du service. Donc, appelez un client par son nom. Quand vous avez des stocks qui arrivent, vous pouvez même l'appeler, sacrifiez une minute.
Donc, il faut même avoir un service pour appeler les clients.
Voilà. Papa Marcel, vous savez que je viens de recevoir quelque chose qui vient d'arriver.
Arrivage.
Donc, c'est déjà les clients, ils se sentent vraiment membres de votre vie, membres de votre communauté, qui ne sont pas seulement clients. Oui. Vous ne les aimez pas à cause de leur argent, mais que vous les aimez peut-être.
Nous sommes en appui. Il faut entretenir des relations humaines.
Voilà. Il y a deuil, vous passez là-bas, les saluer. Oui. Voilà. Donc, là, vous fidélisez votre clientèle. Il y a plusieurs stratégies pour maintenir la clientèle comme cela. Et je pense que nous devons quand même fournir des efforts. Parce que, il y a des gens qui vous disent, quand je vais dans un restaurant, je trouve le propriétaire, je suis bien reçu. Mais quand le propriétaire n'est pas là,
c'est fini.
Donc, les serveurs tournent sur vous, ils sont trop lents. Voilà. Et
ça vous fait perdre des clients.
Voilà. Comment savoir cela? C'est en écoutant vos clients. Un client est en train de manger, vous approchez de lui, vous causez avec lui. Ou bien après, mais je ne vous vois plus à mon restaurant, qu'est-ce qui se passe? S'il est sincère, il pourra vous dire non, autre fois.
Voilà ce qui s'est passé.
Voilà.
Pour ça, tu peux avoir une boîte de suggestions, mais généralement, les gens n'écrivent pas.
Voilà, n'écrivent pas. C'est mieux de contact. Ouais. Pour l'Afrique, le contact humain, personnel est plus nécessaire.
Ouais. Ouais. Mais on voit dans certains magasins à travers la ville une image d'un vieillard avec son. Un ballot. Ouais, il rentre au village. Et parce qu'il faisait critique à ses clients. Alors, est-ce que Nyong'o, comme on l'a dit, donner les gens des objets, des articles à crédit, est-ce que ça va porter un coup contre vos affaires ou ça peut vous aider à faire?
Je suis très content. Il y a beaucoup de rapports économiques qui sont publiés, élaborés sur la RDC maintenant.
Oui.
La culture du crédit est en train de renaître. Il faut être optimiste. C'est vraiment en train de renaître au Congo. On ne sait pas ce qui soutient cela, mais l'État aura aussi, comme je l'ai dit, l'État aura un rôle à jouer dans la protection des gens, la protection du client comme la protection du vendeur. Donc, la culture du crédit s'était vraiment effritée, avait disparu de notre société. On disait, voilà, il suffit juste de reconnaître une dette, et voilà, quoi. Donc, vous êtes dédouané. Là, on vous accuse en justice, vous écrivez un papier, moi, je reconnais avoir reçu $20 de tel, je paierai. Vous ne mettez même pas les délais. Donc, beaucoup de gens ont perdu de l'argent comme cela et n'ont plus le courage. Mais on ne pouvait pas continuer à vivre comme cela. Aujourd'hui, dans des grandes économies comme les États-Unis, l'Europe, tout se fait par crédit. Tout évolue par crédit. Donc, à un moment ou à un autre, on va arriver à un moment où les gens comprendront que le crédit fait fonctionner l'économie.
Donc, celui qui fait des crédits, il gagne plus.
Oui, en beaucoup de choses. Parce que, je voudrais parler du syndrome de l'acheteur. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Au Congo, il y a des gens qui achètent des véhicules à $20,000 du coup, en cash, $30,000. Je ne sais pas, vous référez peut-être que d'autres invités pour vous parler de ce qui se passe en Europe. Je ne crois pas qu'il y ait un seul monsieur, une seule dame en Europe qui peut acheter un véhicule en déboursant du coup
$20,000
ou $20,000. Ça ne se fait pas.
Et ici, ça se fait comment?
Ça, on se demande. Dans un pays pauvre comme la RDC, comment les gens arrivent à faire sortir $20,000 du coup?
Oui.
Et il y a des gens à l'extérieur, des grands hommes d'affaires, ils font un crédit, ils payent $500 par mois, ils payent $1,000 par mois. Il a 10 000 fois, disons, l'argent ou la richesse du plus riche homme d'affaires de la RDC. Mais il achète par crédit. Pourquoi? Il y a tout ça, ça des facilités. Il n'a pas que ça à faire dans la vie. Il a les véhicules achetés, il a la maison à entretenir et ça lui permet de s'occuper de toute sa vie comme cela, avec le peu qu'il a, et il a le contrôle de son portefeuille. Donc, le crédit est encouragé à développer dans notre pays, et là, l'État a un rôle important à jouer, à sécuriser et les clients et les consommateurs, disons, et les vendeurs. C'est nécessaire.
Mais il y a un phénomène là dans la société qu'on appelle Banque Lambert, Ikotama, certains l'appellent ainsi. Donc, je vous prête de l'argent, vous me remettez avec des bénéfices exorbitants. Est-ce que ces bénéfices-là sont légaux?
Oui, c'est légal. Nous sommes dans un pays libéral. Nous avons une économie. Bon, la Constitution parle de. L'économie sociale des marchés, mais en termes clairs, c'est une économie libérale. Donc, tout ce que vous faites qui n'est pas illicite, donc qui n'est pas condamné par la loi, est illicite. Donc peut être.
D'avoir cette activité, la banque Lambert, et est-ce que c'est pas une activité illégale?
Non, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Il peut aller au niveau international. Vous savez qu'on parle de fonds vautours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Des gens qui achètent des dettes de pays en voie de développement et qui les traduisent en justice pour obtenir des compensations énormes sur ça. Le Congo est vraiment victime de ça, notre pays.
Ouais.
Donc, beaucoup de dettes par-ci, par-là. Des gens rachètent ces dettes-là pour nous. C'est presque comme ils veulent nous aider.
Mm.
Une fois qu'ils ont ces dettes-là, ils nous accusent en justice dans des pays qui sont plus ou moins libéraux. Et dès que nous avons un fonds dans ces pays-là, ils arrivent à obtenir ces fonds en Afrique du Sud. On dit, voilà, vous avez une dette de telle compagnie que vous n'avez pas encore payée. On bloque votre argent jusqu'à ce que vous payez ces fonds. Ils arrivent à se faire de l'argent. On a demandé au président Barack Obama
oui.
de condamner ouvertement
cette
pratique-là. Il ne l'a pas fait. C'est le business. C'est l'affaire à l'argent, c'est l'argent.
Oui. Voilà. Armand nous appelle depuis Kindu. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Radio Cap.
Et quelle est votre question?
La préoccupation de j'ai une question à poser à l'invité qui est là sur votre plateau.
Oui.
Il peut nous donner réellement les procédures car celui qui exploite soit le maïs, c'est ça, il augmente les prix. Parce qu'avec les principes soit de l'économie d'un pays ou d'un milieu social, par exemple, est-ce que cette manière d'augmenter les prix est valable ou non valable?
Voilà, Joël Sigou.
Voilà, dans notre secteur agricole, il n'y a pas d'incitation du gouvernement. Le gouvernement ne prend pas soin de notre secteur agricole, ce qui fait que les producteurs se débrouillent.
Mmh.
Dans d'autres pays, il y a des prix minimum ou des prix maximum. Le prix minimum, ça signifie l'État dit ceci. Tout le monde doit acheter au minimum entre 1 kg de maïs à $5. Donc, où que vous soyez, ça encourage les producteurs à produire, parce qu'ils se disent, pour chaque kilo de maïs produit, j'ai au moins $5.
Ouais.
Donc, ce qui n'est pas acheté, le gouvernement achète ça. Le gouvernement doit avoir des moyens pour faire ça.
Mm-hmm.
Donc, il dit, parce que, qu'est-ce qui arrive? Parce que tout le monde, il y a des gens qui étaient prêts à payer pour moins, et qui trouvent que $5, c'est trop cher, ils ne payent pas. Parce que si il y aura une surproduction, le gouvernement se chargera de payer ce qui ne sera pas acheté. C'est pour encourager les producteurs. Nous avons, ici au pays, nous n'avons ni politique de prix minimum, ni politique de prix maximum. Donc chacun fixe le prix comme il veut. Alors,
il me semble qu'il y a le ministère de l'économie qui fixe ça.
Le prix du maïs, non. Il y a quelques produits seulement, notamment les produits pétroliers, je crois. Donc les plus connus, c'est celui-là.
Okay.
Ou c'est le ministère des transports aussi. Mmh. Hein, c'est le ministère de l'économie qui fixe les prix. Mais pour le reste, c'est laissé au libre arbitre des acteurs sur le marché.
Oui.
Et là, c'est simple. Donc, si vous voulez vendre plus, vous devez réduire le prix. Si vous voulez vendre moins, vous augmentez le prix, avec tous les risques qui sont là présents pour vous.
Oui.
Alors, il dit comment il peut faire pour augmenter le prix. Il est reconnu aujourd'hui que les prix des produits agricoles en République démocratique du Congo sont très faibles, ne permettent pas aux paysans congolais de se retrouver.
Oui.
Donc, à court, l'on peut se battre même au niveau international pour ça. À court terme, les gouvernements devraient aider les producteurs pour qu'ils puissent avoir des prix rémunérateurs, donc des prix qui leur donnent des revenus suffisants pour continuer leurs activités. Sinon, ils sont appelés à disparaître parce que nous importons du maïs aujourd'hui sans nous en rendre compte. Ce qui vient du pays, des pays plutôt qui produisent à des coûts très faibles. Donc, quand on compare les deux, les gens qui produisent du maïs à l'étranger produisent à un coût faible. Donc, quand ils arrivent au Congo, comme ils ne sont pas très taxés non plus, ça arrive que nous achetons le maïs venant de l'extérieur moins cher que le maïs qui est produit au Congo. Le gouvernement aurait pu aider aussi les producteurs en taxant le maïs produit de l'extérieur. Là, le problème, c'est quoi? Le maïs produit de l'extérieur est souvent consommé par les gens des villes qui ont le plus de voix, qui font le plus de bruit.
Mmh.
Ils sont acquis sur ça, ils voient les autorités. Dès qu'il y a augmentation du prix du maïs, ils peuvent leur dire ça. Les paysans qui sont à Kananga, à Ngandajika, eux ne voient pas. Donc, ils sont en train de souffrir, ils ne peuvent pas, ils savent pas à qui s'adresser. Nous espérons qu'à 250% pourra les aider.
Mmh.
Mais il faut aider les paysans à accroître les prix des produits importés. c'est possible de les faire. C'est vrai qu'il y a la mondialisation, mais le Congo a un moratoire.
On croise le prix des produits importés pour permettre à ceux qui sont les producteurs nationaux de se retrouver.
De les retrouver, voilà.
Voilà. Donc, on aurait tellement pour augmenter les bénéfices, il faut élever. Soit il y a deux possibilités, vous pouvez augmenter les prix des produits ou carrément maximiser le nombre des clients. Donc, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Joël Sikou, assistant à la faculté d'économie et de développement, Université catholique du Congo, je vous remercie.
Merci.